Comment rater son mariage ou tout savoir pour le réussir à la lumière des écritures peu traquillantes ? Préface. Introduction. 1. Le mariage est voulu de Dieu. 2. Le but premier de Dieu. 3. Dieu institue la cellule familiale. 4. Arrière-plan du mariage, le plaisir. 5. La fidélité. 6. Qu'est-ce que rater son mariage? Avant la rencontre. 1. Choisir de faire sa vie sans Dieu. 2. Choisir un infidèle. 3. Entrer dans le jeu des déclarations des autres. 4. Faire son choix sur l'apparence. 5. Nous pouvons être nous-mêmes un mauvais choix. 6. Rechercher l'idéal, celui ou celle qui a toujours fait l'objet de ses rêves. Dans la rencontre. 1. Présenter sa panoplie de conquêtes comme un exploit. 2. Se laisser attirer ou attirer par l'impudicité. 3. Se laisser attirer ou attirer par des paroles doucereuses. 4. Se laisser attirer ou attirer par l'abstance spéciale. 5. Se laisser influencer par la musique. 6. Agir avec précipitation, sans réfléchir. 7. Soi-disant rechercher la volonté de Dieu et demander des signes. 8. Les signes de l'obéissance à la parole de Dieu. 9. Se laisser attirer ou attirer par la richesse ou l'intérêt. 10. Consulter les voyants. Après la rencontre. 1. Se laisser complètement aveugler ou aveugler par l'amour, les cadeaux. 2. Oublier d'obéir à Dieu. 3. Se croire suffisant. 4. Faire passer son conjoint avant Dieu. 5. Ne pas être vrai, cacher ses défauts, ou vouloir les ignorer comme tels. 6. Être infidèle à son partenaire. 7. Se marier de fait avant d'être marié réellement. 8. Aimer d'amour héros au lieu d'amour agapao. 9. Fiançailles. 10. Concubinage. 11. Ne pas prendre soin de son partenaire. Après le mariage, la fidélité et l'amour. Comment rater son mariage ou tout savoir pour le réussir à la lumière des écritures. Yves Petrakian. Préface de Patrick Salafranc. Préface. Je crois qu'il y a deux choix importants dans la vie d'un être humain. Le choix de Dieu, c'est le choix du salut qui va déterminer toute notre éternité, et le choix d'un conjoint qui va influencer la qualité de toute une vie terrestre. Combien il est important de faire le bon choix? Que de vie gâcher à cause d'un mauvais choix? Combien de fois certains se sont écriés « si j'avais su ». Le livre de Yves Petrakian n'a pas d'autre but que d'aider à faire le bon choix. Au-delà des grandes théories inaccessibles, ce livre se veut avant tout pratique, il est tiré des écritures et du terroir du vécu. Des petits détails tellement significatifs, une analyse de nos comportements, de nos manières d'agir pleines d'enseignements, des conseils simples et judicieux qui seront comme un collyre pour ouvrir les yeux. J'ai vu l'effet de ces enseignements dans la vie de plusieurs jeunes, ça marche. Patrick Salafranc. Introduction. Réjouissez-vous. Quoi qu'en dise le titre de cet ouvrage, vous avez la possibilité de ne pas rater votre mariage. Cela vous demandera quelques précautions, comme tout ce que vous voulez réussir dans la vie. Vous devrez réussir du premier coup cette entreprise extraordinaire. Par votre mariage, votre vie peut être une explosion de joie continuelle, comme elle peut être un cauchemar irréversible. Réussir une tâche complexe d'emblée est pratiquement impossible. On ne se lance pas dans la conduite, automobile sans cours préalable, sans un moniteur à ses côtés. Vous avez 1000 raisons de caler si vous démarrez une voiture pour la première fois. Vous avez 10 000 raisons de rater votre mariage si vous foncez tête baissée, marche arrière enclenchée. Prenez quelques conseils. Proverbe 12, 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis et les conseils des autres. Proverbe 15, 5. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Prenez la route ensuite, n'oubliez pas le code, respectez les priorités. Vous vivez dans un pays dans lequel il est de coutume que les futurs époux se choisissent l'un l'autre. Dans de nombreux pays, il n'en est pas ainsi et même dans le nôtre, cela n'a pas toujours été le cas. Des jeunes gens ont été et sont toujours mariés sans qu'ils aient pu donner leur avis. Permettez-moi une simple question, accepteriez-vous que vos parents, votre famille choisissent à votre place? Je vous entends répondre, c'est à moi de choisir. Je suis majeur, je veux mener ma vie comme je le veux. Notez bien que vous êtes majeur à 18 ans dans votre pays, parce que c'est la loi du pays. En Israël, on est majeur, beaucoup plus tôt, on travaille aussi beaucoup plus tôt. Dans d'autres pays, on est majeur plus tard. En Grèce, l'âge de la majorité était décidé par le père, selon son enfant. Vous l'avez remarqué, certains sont matures très jeunes, d'autres ne le sont jamais. Vous savez, les spéléologues descendaient dans des gouffres profonds, ils partaient l'aventure, vivent des moments riches d'émotions. Cependant, lorsqu'ils descendent, d'une part ils emportent toujours la lumière, d'autre part ils ne quittent pas la corde, le fil conducteur, faute de quoi ce serait la chute libre et la mort certaine. Votre mariage, s'il ne peut être comparé à un gouffre, n'en est pas moins une aventure? Partez, mais emportez la lumière, et ne lâchez jamais le fil conducteur, les recommandations de la parole de Dieu. Ecclésiaste 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort que seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Copyright Yves Petraki en 2001. 1. Le mariage est voulu de Dieu. Le mariage n'est pas une invention humaine. Les hommes auraient plutôt tendance à prescrire le contraire dans les temps incertains que nous vivons. 1 Timothée 4, 1-3. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrie sur dans leur propre conscience. 3 Prescrivant de ne pas se marier. L'Éternel Dieu dit, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous l'avez remarqué, il y a deux variétés humaines, l'homme et la femme, comme il y a deux variétés animales, le mâle et la femelle. Que l'on appelle la réunion de ces deux variétés, mariage, alliance, union, réunion, union sexuelle, Dieu a prévu que ces deux variétés se retrouvent ensemble. Genèse 2, 4. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 2. Le but premier de Dieu. Nous n'existions pas encore. Genèse 1, 1-3,11, 21-23. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu les bénit, en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » L'homme et la femme n'étaient pas encore créés, que Dieu parlait déjà de production, de semences, de fécondité, de multiplication. Pour que la terre soit peuplée, Dieu aurait pu alors remplir la terre d'une multitude d'hommes, créer d'un seul coup quelques milliards d'humains. Pour que la terre reste peuplée, il aurait fallu de plus que ces hommes soient éternels. Dieu n'a pas fait ainsi. Il a d'abord créé un homme, Adam, puis une femme, Ève. Les deux variétés d'une même espèce. Comme les plantes et les animaux, les hommes sont destinés à se reproduire pour que l'espèce demeure. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dieu parle de nouveau de fécondité, de multiplication et le remplissage de la terre commence. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Genèse 9, un Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». 3. Dieu institue la cellule familiale. Ne déduisez pas brutalement que le seul but de Dieu pour les vivants serait de remplir la terre. La remplir coûte que coûte, faire de l'humanité une machine à produire. Dieu institue la cellule familiale car il y a du bon à attendre de l'unité et de la force d'une famille. L'unité, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, la force. Ecclésiaste 4, 9-10 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 10 car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. La cellule familiale, 1 Timothée 5, 14 « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » 4. Arrière-plan du mariage, le plaisir. A. De l'ordre dans la sexualité. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est écrit « L'homme s'attachera à sa femme et non, s'amusera avec des femmes. » L'homme ne s'attachera pas à un homme, à un animal. 1 Corinthiens 7, 2 toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Deutéronome 27, 20-23 maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. 21 dit soit celui qui couche avec une bête quelconque. 22 maudit soit celui qui couche avec sa sœur. 23 maudit soit celui que sa belle-mère. B. Le plaisir de la chair. Dieu a assorti la fonction de reproduction d'un plaisir. L'homme est capable de détourner le but premier de Dieu et de rechercher avant tout ce plaisir. Si le contraceptif féminin a été mis au point sous le couvert de la régulation des essences, c'est pour laisser libre cours à ce plaisir, sans risque de voir arriver une postérité non désirée. L'homme a tendance à faire sortir ce plaisir du cadre du mariage. Il a tendance à rechercher ce plaisir par une approche uniquement sexuelle. Qu'importe donc la fidélité, la recherche de ce plaisir le mène par le B. Cela peut entraîner de nombreuses déviations, une fille, une autre fille, encore une autre uniquement pour le plaisir. Ou bien un garçon retrouve un autre garçon, une fille retrouve une autre fille ou se retrouve elle-même. Ou bien encore le jeune est attiré par tout ce qui est impur, pornographie, livres, images, vidéos. Pour la recherche et la satisfaction de ce plaisir? D'où vient ce plaisir? Est-il normal? Est-il un péché? C'est Dieu le Créateur qui a créé ce plaisir? Cependant, il veut que celui-ci soit vécu dans la pureté, dans l'unité. 1 Corinthiens 7, 2 toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, 3 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il est clair que Dieu prévoit la satisfaction de ce plaisir dans le mariage. 5. La fidélité. Dieu veut que l'homme, la femme se marient, qu'ils s'unissent en vue de procréer, nous l'avons vu, assorti cela de plaisir. Mais Dieu demande que ce plaisir reste dans le mariage établi. Il n'y a pas le mariage plus autre chose, le mariage plus des aventures. Est-ce qu'une aventure recherche la procréation? Pas du tout, elle recherche uniquement le plaisir. Dieu appelle cela l'adultère et il le condamne formellement comme péché. M. 13, 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pas d'adultère mais l'infidélité. Exode 20, 14 « Tu ne commettras point d'adultère. » Matthieu 19, 6 « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 1 Corinthiens 7, 39 « Une femme est liée, aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur. 6. Qu'est-ce que rater son mariage? Pour rater son mariage, il suffit de choisir son partenaire, sans tenir compte des recommandations de Dieu, de ses préceptes, de ses lois. Choisir en respectant ce que Dieu nous dit, c'est se marier selon sa volonté. Nous pouvons parfaitement choisir en utilisant notre vouloir, nos goûts et tout en respectant la volonté de Dieu. Numéro 36, 6. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tzlofcha. Elles se marieront à qui elles voudront, leur choix pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Le précepte de Dieu. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée, aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, son choix seulement, que ce soit dans le Seigneur. Le précepte de Dieu. Voici un autre texte qui donne un choix libre, tout en restant dans la volonté de Dieu. Juges 21, 16-21. Les anciens de l'assemblée dirent: que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? 17. Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. 18. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant: maudit soit qui donnera une femme à un Benjamite. La restriction, le précepte. 19. Et ils dirent: voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel, à Sichem, et au midi de Lebona. 20. Puis ils donnèrent cet ordre: aux fils de Benjamin, allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. 21. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo, pour en faire votre femme leur choix, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Il est bon toutefois de rechercher la direction de Dieu. Cependant, il faut savoir que hormis des cas bien particuliers dans lesquels Dieu choisit un homme, une femme pour un travail, un ministère bien particulier, et à ce moment-là il le fait savoir à l'intéressé, alors même qu'il ne s'y attend pas, Dieu va nous laisser libres de notre choix? La Bible ne nous autorise pas à dire qu'il y aurait quelque part dans le ciel tous les couples prédéfinis, préprogrammés. Rechercher la direction de Dieu, la volonté de Dieu, consisterait à essayer de découvrir ce qui serait écrit d'avance. Bien des jeunes gens se sont égarés ne comprenant pas quelle était la part de la volonté de Dieu et leur propre part. Dieu nous laisse libres de nos choix, et choisir en tenant compte de ses préceptes, c'est justement lui dire et lui prouver par nos actes que nous l'aimons et que nous voulons agir selon ses instructions. Cependant, Dieu est prêt à nous aider, il nous donne des instructions précises. Certainement, si nous honorons Dieu, nous voudrons suivre ses instructions. Nous aurons du respect pour ce qu'il dit, c'est-à-dire nous aurons la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu écoutera ce qu'il dit et Dieu le dirigera. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Celui qui craint l'Éternel l'aimant en respectant ce qu'il dit. 1 Jean 3, 18. Peut-on n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est-à-dire si nous disons que nous l'aimons, alors nous obéissons. Avant, la rencontre. Le titre de cette section, avant la rencontre, situe l'individu avant qu'il ne rencontre l'être qu'il aimera. Son choix n'est pas encore fait. Les dispositions de son cœur peuvent être favorables ou non pour réussir ou rater le mariage. Voyons maintenant quelques-unes de ces dispositions. 1. Choisir de faire service en Dieu. Quand nous disons « faire service en Dieu », nous ne voulons pas dire « sans croire en Dieu », mais sans souhaiter qu'il intervienne dans une partie de notre vie. Par exemple, nous préférons peut-être choisir nous-mêmes notre métier car, si nous confions ce choix à Dieu, en lui laissant toute liberté, il risquerait de faire de nous un évangéliste, un pasteur, nous envoyer en Afrique ou chez les Zoulous. Nous ne voulons pas courir ce risque. Il peut en être de même pour celui ou celle avec qui nous voulons faire notre vie. A. S'occuper des affaires de son cœur, sans s'occuper des directives de Dieu, sans vouloir qu'il intervienne. Pourtant Dieu est prêt à nous aider dans ce domaine. Psaume 84, 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous devons bien choisir les priorités. Psaume 37, 4-5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Recommandez cela à Dieu? Mais moi j'ai envie de m'en occuper maintenant. Je voudrais bien savoir quelle tête elle aura, sa tête et le reste je préfère choisir moi-même. Si jamais Dieu se trompait, s'il me choisissait quelqu'un qui ne me plaise pas. Et puis d'abord, il faudrait qu'il me la montre pour que je puisse lui dire si elle me convient. Vous souvenez-vous quand Abraham envoya son serviteur pour choisir une fille à son fils Isaac? Non? Nous le verrons un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que Dieu est intervenu dans le choix de l'épouse de son serviteur. Celui-ci n'a pas vu son épouse au préalable. Isaac n'a pas discuté le choix que Dieu avait bien voulu faire. Il faut cependant remarquer que ce cas est exceptionnel dans la Bible et que là c'est Dieu qui a choisi entièrement. Ce n'est pas Isaac qui a choisi et qui a ensuite demandé à Dieu si c'était bien celle-là. C'est ce que nous aimerions faire, nous nous choisissons et ensuite nous demandons à Dieu si c'est sa volonté. Si Dieu nous révèle que ce n'est pas le bon choix, nous avons du mal à l'admettre. Comment, mon choix n'est pas bon? Alors nous boudons un bon coup. Finalement, si nous acceptons ce que Dieu nous dit, nous déclarons alors très bien, je vais en choisir un une autre, et ensuite tu me diras si c'est le bon choix. Cela peut durer longtemps. B. S'occuper de ses propres affaires avant de s'occuper de celles de Dieu. C'est-à-dire, je considère qu'il y a, dans ma vie de grand secteur, celui de mes propres affaires, celui-là je m'en occupe moi-même et avant tout, celui des choses spirituelles, ce secteur est secondaire, mais là, je veux bien que Dieu s'en mêle et qu'il me bénisse. Je considère que ce n'est déjà pas mal d'avoir un secteur spirituel dans ma vie. Dieu nous fait une promesse, il s'occupe des corbeaux, des lys des champs, pour les nourrir, pour les vêtir. À combien plus forte raison il désire s'occuper de nous si nous le laissons faire, si nous nous occupons de ce qu'il nous a demandé de nous occuper en priorité. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.